C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM. Histoire et religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Bernard Vachereau, bonjour.
Oui, salut.
Les invasions barbares, la naissance des paroisses, les synodes, les conciles, les burgondes.
Oui.
Et là, on arrivait sur le terrain du politique.
Oui, oui. Parce que, on a beau être occupé par le spirituel, on est quand même aussi les deux pieds sur la terre, avec l'intrusion du politique. D'ailleurs, les Grecs anciens ne séparaient pas le spirituel du politique. N'oublions pas que Platon, qui était pourtant très très porté sur le spirituel, a bien écrit sur la République et le banquet. Bon, n'oublions pas non plus que en des siècles beaucoup plus récents, allant du 7e au 8e siècle, l'islam fut entièrement une spiritualité prenant en compte la umma, c'est-à-dire la communauté au sens le plus humain, plus charnel, plus politique du mot. Donc, ne nous étonnons pas de voir le poids du pouvoir politique royal ou impérial, selon les pays, s'exercer sur l'Église et sur les monastères. Ainsi, l'empereur Théodoric avait voulu peser sur la papauté. Et tout se passa lorsque se tint le concile d'Orléans à partir du 10 juillet 511. Le concile d'Orléans, donc le 10 juillet 511, émit l'idée que pour ordonner évêque un laïc, il faudrait d'abord l'accord du roi. N'oublions pas qu'à l'époque, on n'ordonnait pas systématiquement évêque un prêtre déjà prêtre. On pouvait très bien l'ordonner la veille au soir. Pratiquement. Ça s'est d'ailleurs fait. L'intérêt de ce concile est de nous montrer que donc, en ce début du VIe siècle, on choisissait un laïc comme évêque, quitte, je viens de vous le dire, à l'ordonner pour la circonstance, ce qui montre une certaine relativité de l'importance de l'ordination sacerdotale dans l'optique ecclésiologique de l'époque, puisqu'il n'était donc pas nécessaire d'être préalablement ordonné prêtre et diacre pour pouvoir être éligible comme évêque. La chose se remarquait déjà du temps de Saint Martin de Tours, vers 320 à 397, qui, et là on va prendre une vie hautement, on va dire, incontestable, d'après la vie qui avait été rédigée par Sulpice Sévère, disciple de Saint Martin, aurait été non seulement dans la Légion romaine, mais détail peu connu, médecin militaire de la Légion, et le serait resté durant tout son temps d'armée. Chose qui ouvre des aspects très intéressants sur les origines de l'humanisme qui habitait Saint Martin. Car en tant que médecin, il avait connaissance et conscience de la souffrance humaine, et connaissance et conscience du fait qu'il est impossible de séparer l'âme du corps, et que si je veux soigner l'âme, je dois aussi soigner le corps. Alors, médecin, eh bien, quand il a séparé sa chalmide en deux, pour la donner aux pauvres, donnant, soit dit en passant, la partie qui était payée par lui et gardant sur lui la partie qui était payée par l'État, eh bien, médecin, il avait donc parfaitement à l'esprit conscience de la souffrance humaine et sociale. Et c'est d'ailleurs tout à fait présent dans l'esprit de l'Église, puisque le dictionnaire du christianisme ancien aux éditions Brepol de 93 et 94, page 143, dit ceci, enfin montre ceci, que Martin reste médecin militaire jusqu'à ce qu'une vision du Christ provoque sa conversion. Tout ceci ouvre de très intéressants regards sur le modus vivendi de l'époque, de l'Église en son temps, entre les 4e et 6e siècles. Et ceci ouvre d'ailleurs de fort intéressantes réflexions sur le sacerdoce aujourd'hui en 2011 et bientôt en 2012. Petite parenthèse, actuellement, il existe des prêtres médecins ou des médecins prêtres. J'en connais un dans le Périgord, par exemple, je ne donnerai pas de nom. Et j'ai parfaitement connu en Poitou un exorciste, prêtre exorciste, qui était psychothérapeute. Hein? Bon. Alors, certains ont pu dire qu'il y avait plusieurs formes de règles, notamment la règle de Saint-Benoît, et existèrent d'autres règles antérieurement à la sienne. Mais fort peu, et du moins très peu en Gaule, qui soient antérieures à celles de Saint-Benoît. Parmi ces rares règles, citons celle de Saint-Honorat de Lérins, vers 410, très basée sur les enseignements des moines et des pères de l'Église d'Orient, et d'ailleurs non écrite, sauf à partir de 415, à partir de grâce à Saint Jean Cassien et à Saint Victor de Marseille. Alors, dans le même esprit que celui de la règle de Saint Honorat, qui, je le répète, était orale et non écrite, et d'ailleurs fortement inspirée par elle, existèrent des règles édictées au nombre de deux par Saint Césaire d'Arles, après son élection, quand il fut élu en 503 comme évêque d'Arles. Et encore sont-elles fortement sous l'influence des origines monastiques orientales. Alors il y a eu d'autres règles qui ont été aussi édictées dans un contexte similaire, très proche, mais allant de périodes légèrement postérieures à d'autres, beaucoup plus postérieures. Citons parmi celles-ci, les premières, celles qui ont été légèrement postérieures, celles donc de Saint-Benoît, celles édictées par Sainte Radegonde, ancienne reine des Francs, ayant épousé le roi Clotaire en 538, et ayant dû se retirer à Poitiers après l'assassinat de son frère par le roi. Retirée à Poitiers, elle y fonda le monastère de la Sainte-Croix, pour lequel elle édicta sa règle. D'ailleurs, il existe toujours à Poitiers une magnifique église romane appelée Sainte-Radegonde. Je l'ai visitée à plusieurs reprises quand j'étais au séminaire à Poitiers. Et dans une crypte sous le maître-autel, il y a le grand autel reliquaire de Sainte-Radegonde. Alors, plus tard, a été rédigé en 650 par Saint Donat, qui était alors évêque de Besançon dans le Doubs, une règle qui avait été destinée au monastère de Jusamoutier, qui avait été fondée par sa mère. Règle, elle aussi très fortement inspirée par celle de Saint Césaire d'Arles. Dans toutes ces règles, on note la constante d'une influence très marquée par l'héritage oriental des origines monastiques judéo-chrétiennes, avec de lointains relents esséniens, de Qumran et de Masada, ou même égyptiens, de Nag Hammadi, voire de beaucoup d'autres, plus anciens encore, dont les origines fort variées se perdent dans la nuit des temps. Mais quelle était l'originalité particulière de la règle de Saint-Benoît ?
Nous le saurons
dans moins de 2 minutes 30.
Voilà !
D'abord ne pas se perdre. D'abord se reconnaître. Nous avons erré longtemps dans la multitude, l'anonymat. Dans l'effroyable course du temps, nous avons eu parfois très peur. Il faut dire que la route fut semée d'embûches et de doutes puissants. Il faut dire que nous n'étions pas préparés pour une telle embuscade. Mais des voix se dressent, des appels s'amplifient, des visages s'ouvrent. Il est temps de battre chaman, de renouer avec la terre arable du chemin. Il n'est jamais trop tard. Tu es vie, tu es vent, tu es vivant. Tu es un homme bien vivant, et l'aube perce sous tes voilures. Tu l'as baigné d'une force, ressurgissant sous ta blessure. Vivant. Un amoureux transi de tout de rien, de l'air du temps, une simple brindille qui craque, et te voilà riche et puissant. Vivant, c'est une muse solitaire qui retourne le miroir. Elle guettait près de sa fontaine, tu passais presque sans la boire, et ce fut comme un rendez-vous fixé depuis la nuit des temps, avec toi-même, avec ce fou qui ose vivre impunément. Vivant. Se faisait creux, ardu et suant la pénombre. Il était temps, passe le guet, signe ta chance, refait le monde. Vivant. Tu as de la force à revendre, mais tu n'en feras pas commerce. Et puis l'étoile est un cadeau pour tous les marcheurs qui restent. Vivant. Et cette muse solitaire qui n'en finit pas d'être femme, comme un point d'eau dans le désert, elle t'a rafraîchi la mémoire. Elle attend d'autres pèlerins qui, comme toi, ont tout perdu. Laisse-la près de sa fontaine, elle n'appartient qu'à son amour. Vivant.
Vivant Maurice Benin sur CFM dans l'histoire des religions avec Bernard Vachereau.
Mais si tu as de nombreuses chansons comme ça, moi je demande à avoir la discothèque complète. Non mais c'est vraiment très très beau. Hein. Alors justement, et là je suis sincère, hein, je fais pas pour faire plaisir du tout. Hein, bon. Mais l'originalité de la règle de Saint-Benoît, puisque la dernière fois, je suis parti sur cette question, qu'est-ce qui était original ? C'est qu'il a pris à la fois en compte la tradition d'Orient, et à la fois, il a ouvert à l'Occident, avec un esprit profondément occidental. Alors, de l'Occident, c'est un Occident romain et latin. Ce n'est pas un Occident multiculture, etc., ou germanique, ou gaulois, ou non, c'est romain-latin. Destiné au monastère de Monte Cassino, en Italie, avant de se répandre en Gaule provençale. Vous avez peut-être été en Provence, dans la Provence avignonnaise. Bon. Saint-Rémy de Provence, il y a la Via Domitia qui relie l'Italie au sud de la Gaule. Cette Via Domitia, c'est bien le symbole, justement, des chemins et des échanges italo gaulois du sud de la Gaule. Ne parlons pas des voies romaines qui reliaient sur notre Quercy. Hein. Non, du sud de la Gaule. Alors, la règle de Saint-Benoît, tout en conservant certains aspects de l'ascétisme des moines orientaux, s'oriente vers un mélange de vie contemplative et active, une vie d'action, où l'action va prendre une part relativement plus importante. Une priorité va être donnée à une pastorale de l'évangélisation qui en passe par le travail rural et agricole, dont le défrichage des bois et des terres, ainsi que l'instruction des paysans en vue d'un développement agricole modernisé. De plus en plus programmée, une formation intellectuelle très poussée des laïcs et des religieux vers les sciences comme la médecine, le droit, les arts, l'architecture, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et même, devrais-je dire, allez, vers le chiffre. Le chiffre qui va devenir le nombre et qui va ainsi tellement marquer les compagnons dans leur travail architectural. Hein, surtout leur symbolisme architectural, très très fortement. Mais là, c'est un domaine tellement immense que je fais exprès d'élaguer. Là.
Oui, on va faire l'impasse sur Euclide, là.
Ah, pas sur Euclide, ce cher Euclide, quand même, allons. L'autre originalité de la règle de Benoît fut que désormais une règle commune unissait divers monastères d'un même ordre au lieu d'avoir un écheveau de plusieurs règles destinées à un inextricable réseau de divers monastères sans autre lien entre eux que celui d'être voué à Dieu. Absence de lien qui caractérise, du moins dans ces époques anciennes, le monachisme oriental et occidental, à l'époque qui fut en Occident celle dite mérovingienne, dont allant de vers 481 à 751, avec le roi Childéric III, qui fut fait prisonnier par Pépin le Bref, qui le fit d'ailleurs enfermer dans un monastère, en 751, dans le but de lui succéder. Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Et fonder la dynastie carolingienne. Rappelons d'ailleurs que la règle de Saint-Benoît ne fut réellement connue en Gaule qu'au milieu du 7e siècle, donc environ 100 ans après l'édiction de la règle par Saint-Benoît.
Et c'est le synode d'Aix-la-Chapelle en 817 qui consacre son institution, ce qui fait que oui, jusqu'au XIe siècle, tous les moines d'Occident sont bénédictins, en fait.
Pratiquement. Voyez. Alors disons que lorsqu'en 547, donc à la fin de sa vie, Saint Benoît édicte sa règle, il le fait dans sa langue originelle. C'est-à-dire en vieil italien du VIe siècle. Alors malheureusement, le document originel a disparu lors d'un incendie qui eut lieu en 896 et ravagea le monastère de Monte Cassino en Italie. Mais existe un autre document absolument similaire que l'on appelle la règle du maître, et qui fut rédigé au cours du premier quart du VIe siècle, sans doute à Rome, et nous donne un document très fiable pour saisir l'esprit de la règle originelle de Saint Benoît. Tellement que pendant une longue période allant jusqu'au début du XXe siècle, on a cru que cette version était l'originale. D'autant plus que tout comme Saint Benoît, elle cite les orientaux, comme Saint Pacôme, Augustin, même si on doit mettre un peu Augustin à part des orientaux, car c'est un arabe latin, c'est un latin arabe.
Il y a même des passages entiers de Cassien.
Oui, alors Cassien, justement. Cassien, même si ce dernier a été suspect pour d'autres raisons. Mais nous y reviendrons plus tard. Hein. Ainsi que de nombreux livres bibliques de l'Ancien Testament, dont en particulier les psaumes, comme aussi des livres du Nouveau Testament. Alors au cours des siècles, se sont ajoutées des interpolations. Ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire un écrit, une parole intercalée dans un texte ancien. Hein? Voilà, une interpolation qui sont des emprunts à des anciens philosophes païens de l'Antiquité grecque et romaine. Depuis le XXe siècle, il se fait un énorme travail de remise à jour de ces écrits pour retrouver les mots et l'esprit de la règle originelle de saint Benoît. Ça, c'est un travail monumental avec Don Guéranger.
Un travail de bénédictin.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Souvent, Don Guéranger et autres ont commencé. Et ça continue, ça continue. Hein. Sous sa forme, la traduction qui en est la plus proche est celle qui a été faite entre 1805 et 1875 avec Don Prosper Béranger, abbé de Solesmes.
À la semaine prochaine, Bernard Vacheron.
Thank you.
C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vacheron, curé de Caylus.